Le Lys dans la vallée, chapitre 3. Je ne sais qui d'elle ou de moi rougit le plus fortement. Assez interdite pour ne rien dire, elle revint s'asseoir à sa place devant un métier à tapisserie, après que le domestique eut approché deux fauteuils. Elle acheva de tirer son aiguille avant de donner un prétexte à son silence, compta quelques points et releva sa tête, à la fois douce et altière, vers M. de Chessel, en lui demandant à quelle heureuse circonstance elle devait sa visite. Quoique curieuse de savoir la vérité sur mon apparition, elle ne nous regarda ni l'un ni l'autre. Ses yeux furent constamment attachés sur la rivière, mais à la manière dont elle écoutait, vous eussiez dit que, semblable aux aveugles, elle savait reconnaître les agitations de l'âme dans les imperceptibles accents de la parole. Et cela était vrai. Monsieur de Chessel dit mon nom et fit ma biographie. J'étais arrivée depuis quelques mois à Tours, où mes parents m'avaient ramenée chez eux quand la guerre avait menacé Paris. Enfant de la Touraine, à qui la Touraine était inconnue, elle voyait en moi un jeune homme affaibli par des travaux immodérés, envoyé à Frapesle pour s'y divertir, et auquel il avait montré sa terre, où je venais pour la première fois. Au bas du coteau seulement, je lui avais appris ma course de Tours à Frapesle, et craignant pour ma santé déjà si faible, il s'était avisé d'entrer à Clochegourde, en pensant qu'elle me permettrait de m'y reposer. Monsieur de Chessel disait la vérité, mais un hasard heureux semble si fort cherché que Madame de Mortsauf garda quelque défiance. Elle tourna sur moi des yeux froids et sévères qui me firent baisser les paupières d'humiliation, autant par je ne sais quel sentiment d'humiliation que pour cacher des larmes que je retins entre mes cils. L'imposante châtelaine me vit le front en sueur. Peut-être aussi devina-t-elle les larmes, car elle m'offrit ce dont je pouvais avoir besoin en exprimant une bonté consolante qui me rendit la parole. Je rougissais comme une jeune fille en faute, et d'une voix chevrotante comme celle d'un vieillard, je répondis par un remerciement négatif. « Tout ce que je souhaite, lui dis-je en levant les yeux sur les siens, que je rencontrais pour la seconde fois, mais pendant un moment aussi rapide qu'un éclair, c'est de n'être pas renvoyé d'ici. Je suis tellement engourdi par la fatigue que je ne pourrais marcher. « Pourquoi suspectez-vous l'hospitalité de notre beau pays ?» me dit-elle. « Vous nous accorderez sans doute le plaisir de dîner à Clochegourde, » ajouta-t-elle en se tournant vers son voisin. Je jetai sur mon protecteur un regard où éclatèrent tant de prières qu'il se mit en mesure d'accepter cette proposition dont la formule voulait un refus. Si l'habitude du monde permettait à Monsieur de Chessel de distinguer ces nuances, un jeune homme sans expérience croit si fermement à l'union de la parole et de la pensée chez une belle femme que je fus bien étonnée quand, en revenant le soir, mon hôte me dit « Je suis restée parce que vous en mouriez d'envie, mais si vous ne raccommodez pas les choses, je suis brouillée peut-être avec mes voisins. » Ce « si vous ne raccommodez pas les choses » me fit longtemps rêver. Si je plaisais à Madame de Mortsauf, elle ne pourrait pas en vouloir à celui qui m'avait introduit chez elle. Monsieur de Chessel me supposait donc le pouvoir de l'intéresser, n'était-ce pas me le donner? Cette explication corrobora mon espoir en un moment où j'avais besoin de secours. « Cela me semble difficile, répondit-il. Madame de Chessel nous attend. Elle vous a tous les jours, reprit la comtesse, et nous pouvons l'avertir. « Est-elle seule ? Elle a M. l'abbé de Quélus ?»« Eh bien, » dit-elle en se levant pour sonner, « vous dînez avec nous. » Cette fois, M. de Chessel la crut franche et me jeta des regards complimenteurs. Dès que je fus certain de rester pendant une soirée sous ce toit, j'eus à moi comme une éternité. Pour beaucoup d'êtres malheureux, demain est un mot vide de sens. Et j'étais alors au nombre de ceux qui n'ont aucune foi dans le lendemain. Quand j'avais quelques heures à moi, j'y faisais tenir toute une vie de volupté. Madame de Mortsauf entama sur le pays, sur les récoltes, sur les vignes, une conversation à laquelle j'étais étranger. Chez une maîtresse de maison, cette façon d'agir atteste un manque d'éducation ou son mépris pour celui qu'elle met ainsi comme à la porte du discours. Mais ce fut embarras chez la comtesse. Si d'abord je crus qu'elle affectait de me traiter en enfant, si j'enviais le privilège des hommes de 30 ans qui permettaient à monsieur de Chessel d'entretenir sa voisine de sujets graves auxquels je ne comprenais rien, si je me dépitais en me disant que tout était pour lui, à quelques mois de là, je sus combien est significatif le silence d'une femme et combien de pensées couvre une diffuse conversation. D'abord, j'essayais de me mettre à mon aise dans mon fauteuil, puis je reconnus les avantages de ma position en me laissant aller au charme d'entendre la voix de la comtesse. Le souffle de son âme se déployait dans les replis des syllabes, comme le son se divise sous les clés d'une flûte. Il expirait onduleusement à l'oreille, d'où il précipitait l'action du sang. Sa façon de dire les terminaisons en « i » faisait croire à quelques chants d'oiseaux. Le « che » prononcé par elle était comme une caresse, et la manière dont elle attaquait les « t » accusait le despotisme du cœur. Elle étendait ainsi, sans le savoir, le sens des mots et vous entraînait l'âme dans un monde surhumain. Combien de fois n'ai-je pas laissé continuer une discussion que je pouvais finir? Combien de fois ne me suis-je pas fait injustement gronder pour écouter ces concerts de voix humaines, pour aspirer l'air qui sortait de sa lèvre, chargé de son âme, pour étreindre cette lumière, parler avec l'ardeur que j'aurais mise à serrer la comtesse sur mon sein? Quels chants d'hirondelles joyeuses quand elle pouvait rire! Mais quelle voix de cygne appelant ses compagnes quand elle parlait de ses chagrins. L'inattention de la comtesse me permit de l'examiner. Mon regard se régalait en glissant sur la belle parleuse. Il pressait sa taille, baisait ses pieds et se jouait dans les boucles de sa chevelure. Cependant, j'étais en proie à une terreur que comprendront ceux qui, dans leur vie, ont éprouvé les joies illimitées d'une passion vraie. J'avais peur qu'elle ne me surprît les yeux attachés à la place de ses épaules que j'avais si ardemment embrassées. Cette crainte avivait l'attention et j'y succombais, je les regardais. Mon œil déchirait l'étoffe. Je revoyais la lentille qui marquait la naissance de la jolie raie par laquelle son dos était partagé, mouche perdue dans du lait et qui depuis le bal flamboyait toujours le soir dans ses ténèbres où semble ruisseler le sommeil des jeunes gens dont l'imagination est ardente, dont la vie est chaste. Je puis vous crayonner les traits principaux qui partout eussent signalé la comtesse au regard. Mais le dessin le plus correct, la couleur la plus chaude, n'en exprimerait rien encore. Sa figure est une de celles dont la ressemblance exige l'introuvable artiste de qui la main sait peindre le reflet des feux intérieurs et sait rendre cette vapeur lumineuse que nie la science, que la parole ne traduit pas, mais que voit un amant. Ses cheveux fins et cendrés la faisaient souvent souffrir et ses souffrances étaient sans doute causées par de subites réactions du sang vers la tête. Son front arrondi, proéminent comme celui de la Joconde, paraissait plein d'idées inexprimées, de sentiments contenus, de fleurs noyées dans des eaux amères. Ses yeux verdâtres, semés de points bruns, étaient toujours pâles, mais s'il s'agissait de ses enfants, s'il lui échappait de ces vives effusions de joie ou de douleur, rares dans la vie des femmes résignées, son œil lançait alors une lueur subtile qui semblait s'enflammer aux sources de la vie et devait les tarir. Éclair qui m'avait arraché des larmes quand elle me couvrit de son dédain formidable et qui lui suffisait pour abaisser les paupières aux plus hardis. Un nez grec comme dessiné par Phidias et réuni par un double arc à des lèvres élégamment sinueuses spiritualisait son visage de forme ovale et dont le teint, comparable au tissu des camélias blancs, se rougissait aux joues par de jolis tons roses. Son embonpoint ne détruisait ni la grâce de sa taille, ni la rondeur voulue pour que ses formes demeurassent belles, quoique développées. Vous comprendrez soudain ce genre de perfection lorsque vous saurez qu'en s'unissant à l'avant-bras, les éblouissants trésors qui m'avaient fasciné paraissaient ne devoir former aucun pli. Le bas de sa tête n'offrait point ces creux qui font ressembler la nuque de certaines femmes à des troncs d'arbres. Ses muscles n'y dessinaient point de cordes et partout les lignes s'arrondissaient en flexuosité désespérante pour le regard comme pour le pinceau. Un duvet follet se mourait le long de ses joues, dans les méplats du col, en y retenant la lumière qui s'y faisait soyeuse. Ses oreilles, petites et bien contournées, étaient, suivant son expression, des oreilles d'esclave et de mère. Plus tard, quand j'habitais son cœur, elle me disait « Voici Monsieur de Mortsauf », et avait raison, tandis que je n'entendais rien encore, moi dont Louis possède une remarquable étendue. Ses bras étaient beaux, sa main aux doigts recourbés était longue, et comme dans les statues antiques, la chair dépassait ses ongles à fine côte. Je vous déplairais en donnant aux tailles plates l'avantage sur les tailles rondes, si vous n'étiez pas une exception. La taille ronde est un signe de force, mais les femmes ainsi construites sont impérieuses, volontaires, plus voluptueuses que tendres. Au contraire, les femmes à taille plate sont dévouées, pleines de finesse, enclines à la mélancolie. Elles sont mieux femmes que les autres. La taille plate est souple et molle, la taille ronde est inflexible et jalouse. Vous savez maintenant comment elle était faite. Elle avait le pied d'une femme comme il faut, ce pied qui marche peu, se fatigue promptement et réjouit la vue quand il dépasse la robe. Quoiqu'elle fût mère de deux enfants, je n'ai jamais rencontré dans son sexe personne de plus jeune fille qu'elle. Son air exprimait une simplesse, jointe à je ne sais quoi d'interdit et de songeur, qui ramenait à elle comme le peintre nous ramène à la figure où son génie a traduit un monde de sentiments. Ses qualités visibles ne peuvent d'ailleurs s'exprimer que par des comparaisons. Rappelez-vous le parfum chaste et sauvage de cette bruyère que nous avons cueillie en revenant de la Villa Diodati, cette fleur dont vous avez tant loué le noir et le rose. Vous devinerez comment cette femme pouvait être élégante loin du monde, naturelle dans ses expressions, recherchée dans les choses qui devenaient siennes à la fois rose et noire. Son corps avait la verdeur que nous admirons dans les feuilles nouvellement dépliées. Son esprit avait la profonde concision du sauvage. Elle était enfant par le sentiment, grave par la souffrance, châtelaine et bachelette. Aussi plaisait-elle sans artifice, par sa manière de s'asseoir, de se lever, de se taire ou de jeter un mot. Habituellement recueillie et attentive comme la sentinelle sur qui repose le salut de tous et qui épie le malheur, il lui échappait parfois des sourires qui trahissaient en elle un naturel rieur enseveli sous le maintien exigé par sa vie. Sa coquetterie était devenue du mystère. Elle faisait rêver au lieu d'inspirer l'attention galante que sollicitent les femmes, et laissait apercevoir sa première nature de flamme vive, ses premiers rêves bleus, comme on voit le ciel par des éclaircies de nuages. Cette révélation involontaire rendait pensif ceux qui ne se sentaient pas une larme intérieure séchée par le feu des désirs. La rareté de ses gestes, et surtout celle de ses regards, excepté ses enfants, elle ne regardait personne, donnait une incroyable solennité à ce qu'elle faisait ou disait, quand elle faisait ou disait une chose avec cet air que savent prendre les femmes au moment où elles compromettent leur dignité par un aveu. Ce jour-là, Madame de Mortsauf avait une robe rose à mille raies, une collerette à large ourlet, une ceinture noire et des brodequins de cette même couleur. Ses cheveux, simplement tordus sur sa tête, était retenu par un peigne d'écaille. Telle est l'imparfaite exquise promise. mais la constante émanation de son âme sur les siens, cette essence nourrissante épandue à flots comme le soleil émet sa lumière, mais sa nature intime, son attitude aux heures sereines, sa résignation aux heures nuageuses, tous ces tournoiements de la vie où le caractère se déploie, tiennent comme les effets du ciel à des circonstances inattendues et fugitives qui ne se ressemblent entre elles que par le fond d'où elles détachent et dont la peinture sera nécessairement mêlée aux événements de cette histoire. Véritable épopée domestique, aussi grande aux yeux du sage que le sont les tragédies aux yeux de la foule, et dont le récit vous attachera autant pour la part que j'y ai prise que pour sa similitude avec un grand nombre de destinées féminines.